Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour notre dernière émission, on va se replonger dans nos univers d'enfants, dans les contes et histoires qui nous ont bercés et effrayés.
Que vos dents sont grandes et pointues, chère grand-mère.
C'est pour mieux
te manger, mon enfant.
Ah ! Ouvrez bien vos oreilles. Ma volonté est telle qu'avant l'aube de ses 16 ans, elle se piquera le doigt à la pointe d'une quenouille et en mourra.
Ça sent la chair fraîche. Sous ce lit. Et sous ce lit. Et sous ce lit là encore.
Quand elle mordra dans cette pomme, son souffle s'arrêtera, son sang se glacera. Ils vont l'enterrer vivante.
Que de menaces, de dévorations, de morts. C'est épouvantable. Il y a des ogres, des sorcières et des loups, des enfants perdus, abandonnés. En tout cas, des angoisses et des terreurs, en veux-tu, en voilà. Et nous en avons tous raffolé. Depuis toujours, chaque génération a réclamé ces histoires insatiablement. Qu'est-ce qui plaît tant aux enfants dans ces contes tissés de fantasmes si effrayants? Certes, ça finit presque toujours bien, mais quand même. Quelle est la fonction de l'imaginaire dans l'économie psychique de l'enfant? Quel rôle jouent ces fictions dans leur développement et comment la psychanalyse travaille avec cet outil? Aujourd'hui donc, psychanalyse et contes de fées.
En fait, je me disais que nous pourrions prendre rendez-vous avec un professionnel.
Un psy? Tu penses que je suis fou?
Bien sûr que non.
Et voilà, deux cinglés de plus dans la nature.
Deux vignettes pour répondre à nos questions aujourd'hui. D'abord Thomas, il a 5 ans, il est en grande section de maternelle et il commence à développer des phobies mais aussi à se comporter en enfant ultra capricieux, incapable de supporter la frustration. Et c'est tout à coup son obsession de l'histoire des trois petits cochons qui va l'aider à surmonter ses difficultés. Chloé, elle, a 7 ans. Elle est autiste et c'est avec Catherine Vanier, notre invitée aujourd'hui, et aussi avec l'histoire de la Reine des Neiges, qu'elle parviendra peu à peu à s'ouvrir au monde qui l'entoure.
France Inter, n'est pas fou qui veut, Ophélie Vivier.
Bonjour Catherine Vanier.
Bonjour.
Vous êtes psychanalyste et vous travaillez avec des enfants depuis très très nombreuses années, depuis toujours. Ces histoires, elles entrent naturellement finalement dans votre cabinet. Et je le disais en introduction, on est surpris, une fois adulte, de constater à quel point, même si ces histoires finissent quasiment toujours bien, à quel point ces contes traditionnels sont épouvantablement inquiétants, angoissants. Et pourtant, ils ont été transmis de génération en génération. Comment est-ce que vous expliquez cette universalité des contes de fées ?
Pourquoi ça plaît tellement aux enfants? Ça plaît aux enfants, les contes de fées, parce que ça vient leur parler d'eux, des conflits dans lesquels ils sont pris, des angoisses qu'ils ont affrontées. Ça parle de leur propre violence, en leur montrant que, après tout, la violence, ça existe. On peut la nommer, on peut la symboliser. Et d'une certaine façon, plus c'est monstrueux, plus ça les rassure.
Mais alors, qu'est-ce qui est psychiquement structurant, concrètement?
Il y a dans le conte de fées quelque chose qui vient répondre à la question que l'enfant se pose. Ça vient lui parler de lui. Mmh. Il se dit, ah bon, c'est possible, même si on est, par exemple, moins aimé de la famille, si on est le petit poussé, si on a absolument la certitude que les parents ne veulent plus de vous parce que, ou n'ont jamais voulu de vous parce que vous êtes très petit, eh bien, on peut être très malin et on peut s'en sortir. C'est-à-dire que ça amène les problèmes que les enfants se posent. Et ce qu'il y a de vraiment merveilleux dans le conte, c'est que ça donne des solutions.
Comment est-ce que vous qualifieriez, avec des gros mots de la psychanalyse, ce qui se passe pour l'enfant justement quand il se plonge dans cette histoire? C'est de l'identification, de la projection?
Oui, certainement tout ça. Mais ce que l'essentiel de ce qui se passe, c'est que par cet imaginaire-là, il peut avoir accès à son fantasme et il peut en faire quelque chose. C'est vraiment le monde fantasmatique de l'enfant qui est touché dans les contes de fées. Et c'est vrai, quand vous lisez les contes de fées, vous voyez que toutes les problématiques que nous, on connaît par ailleurs, y sont exposées. Vous avez des...
Alors c'est quoi justement les fantasmes un peu universels qu'on retrouve dans ces contes?
Eh bien, par exemple, la rivalité. Il y a énormément de contes avec des histoires de rivalité fraternelle. Je repense tout simplement à Boucle d'or, qui est un conte, cette petite fille qui arrive dans une maison où tout le monde a déjà son assiette, où tout le monde a déjà son lit, où tout le monde a déjà sa façon de vivre et qui essaie tous les lits, qui voit ce qu'elle peut voler dans les assiettes et qui finalement est obligée de s'échapper par la fenêtre, qu'elle est née d'une famille, n'a pas rêvé que ce petit dernier qui venait se glisser à toutes les places puisse se sauver par la fenêtre.
Ouais. Quel était l'apport de Bruno Bettelheim dans cette analyse, ce rapport entre la psychanalyse et les contes de fées? Il a écrit ce fameux livre « Psychanalyse des contes de fées » en 1976.
Oui.
C'est un pionnier.
L'avantage de ce texte absolument passionnant, c'est qu'il reprend les contes à l'origine, c'est-à-dire depuis la nuit des temps, comment se racontait le conte. Vous apprendrez en lisant ce livre que l'histoire de Cendrillon est une histoire chinoise.
Ah bon ?
Qui remonte, qui remonte à l'époque où il fallait avoir des tout petits pieds, voire se serrer les pieds dans des chaussures. Il raconte des histoires de contes au-delà du conte lui-même, qui sont l'histoire intrinsèque de comment s'est développé le conte au fil des siècles et des cultures différentes. Et puis, il pointe aussi, en effet, la part fantasmatique du conte et l'intérêt qu'il a pour l'enfant. Le conte, c'est comme une solution à ses problèmes.
Quel est le rôle de l'adulte qui lit une histoire à un enfant, avec un enfant ?
Ça, c'est très important de lire une histoire avec un enfant. D'abord, il faut qu'il y soit, l'adulte, dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il ait du plaisir à y être et que cette histoire lui parle à lui aussi. Ce qui va parler aussi à l'enfant, c'est la façon dont ça pourra vous émouvoir ou vous parler ou vous renvoyer à des choses de votre enfance. Dans les contes, vous remarquerez, il y a toujours une histoire avec des parents. Dans chaque conte, vous avez à quitter les parents. C'est toujours l'histoire d'un enfant qui se trouve en position d'avoir à quitter sa famille rassurante.
Parce qu'il y a une mort ou parce qu'il y a un abandon, c'est souvent quand même des choses un peu tragiques.
Oui, ou qu'il décide d'aller parcourir le monde et donc il part à l'aventure.
Il y a cet enfant qui se sépare
et qui part à l'aventure. Et c'est toujours au départ des parents qui étaient très bons. Mais au fil du conte, les parents deviennent moins bons. Et je pense évidemment aux marâtres. Il y a tellement de marâtres dans les contes de fées. C'est formidable, quoi, de pouvoir mettre d'un côté la bonne mère et de séparer de cette bonne mère une marâtre qu'on peut haïr autant qu'on veut parce qu'elle est vraiment franchement méchante et que c'est comme ça qu'on la voit de temps en temps, sa propre mère. Je me souviens comme ça d'une petite fille qui me disait « Mais tu sais, ma maman, je me demande si elle n'a pas une jumelle et on ne le saurait pas. » Alors je lui dis « Ah bon, mais pourquoi tu penses ça ?» Mais parce que des fois, c'est une maman adorable, et puis des fois c'est sa jumelle qui est très très méchante. Donc vous voyez, ça, le conte de fées a tout de suite amené cette idée-là, qu'on pouvait scinder l'image de la mère.
Ouais, l'ambivalence quoi, de la figure maternelle.
Voilà, qu'on pouvait la scinder en deux. Parce que par moment, pour nos enfants, on devient des sorcières et on devient des loups.
Est-ce que cette figure-là ambivalente, elle existe aussi au masculin, chez les papas, dans les contes ? On le voit moins ça, j'ai l'impression.
Alors, on voit moins ça, mais enfin bon, si vous y réfléchissez, et Bettelheim m'en dit un mot d'ailleurs, il y a quand même toujours une princesse à délivrer d'un monstre qui, en général, est de sexe masculin. Donc il faut arriver à combattre le très fort, très puissant géant, ogre ou dragon, qui vous empêche l'accès à cette princesse. Donc le garçon, c'est quand même plus facile pour lui d'aller directement tuer le dragon que d'en vouloir au père. Le roi, en général, est assez bienveillant dans les contes de fées envers son fils. C'est les femmes qui rejettent les belles princesses.
Est-ce que, Catherine Vanier, vous avez observé ces dernières années une évolution de la pratique de la lecture, justement, des parents avec leurs enfants ? Est-ce qu'on lit autant ? Est-ce qu'on lit la même chose ?
On lit moins les contes de fées de nos jours, un peu moins. Je pense qu'il y a un passage sans doute obligé par les contes de fées. Vous savez, le top du conte de fées, c'est 5 ans, 4 ans. Oui. Voilà, c'est le moment où les enfants adorent ça. Mais les parents, je trouve, lisent beaucoup maintenant des livres éducatifs ou des livres pour amuser les enfants, ce qui est très sympathique.
Oui, c'est vrai, quand on se balade dans les rayons des librairies pour enfants, on voit beaucoup, beaucoup de livres comme ça, pédagogiques, quoi. Comment apprendre à faire au pot, comment apprendre à séparer de son doudou. Mais enfin voilà, il y a un aspect très éducatif.
Et tout le côté qui leur permet, c'est très éducatif de savoir comment faire avec son fantasme, tout le côté qui leur permet de savoir comment se sortir de situations épouvantables, ce côté-là n'est pas dans ses contes. Donc ça ne leur permet pas de symboliser quelque chose qu'ils sont en train de vivre. Ça répond pas à leurs questions essentielles et vitales du moment. comment je vais faire pour m'en sortir avec cette maman méchante? Comment je vais faire pour supporter cette petite sœur qui est ma rivale? Comment on peut s'en sortir? Ben, on peut être Cendrillon et aller au bal à la fin du conte.
Donc il faudrait quand même revenir un petit peu aux contes de fées.
Bien sûr, bien sûr. Et puis peut-être aussi, si vous voulez, les lire vraiment. Vous savez, le moment où vous rentrez du travail, ils sont très agités en fin de journée, vous voulez être tranquille, vous mettez une cassette.
Alors, un DVD.
Voilà, le DVD, les cassettes d'autrefois, le DVD de... Bon, très bien, d'accord, ils sont contents, c'est sympa, ils sont très jolis, ces dessins animés souvent. Mais le fait de le lire permet à l'enfant de voir que vous, ça ne vous fait pas peur et que vous êtes d'accord avec ces fantasmes violents. Et le lire sans éluder, bien sûr, la violence, puisque c'est cette violence à lui, l'enfant, qui va lui permettre de symboliser ce qui se passe dans sa tête et qui va répondre aux questions actuelles qui se posent. Les enfants sont pleins de choses monstrueuses dans la tête. C'est nous, les grandes personnes, qui pensons que les enfants, c'est pur, c'est charmant, et ça n'est que bonté et amour. Pas du tout. Les enfants sont d'une extrême violence. Et justement, quand on leur lit le conte de fées, c'est comme si on leur disait, ben oui, tu vois, c'est normal cette violence-là. Et on peut s'en sortir, toujours si on est courageux, si on arrive à passer par-dessus des tas de choses très compliquées et à renoncer à son enfance. Eh bien, ma foi, on peut grandir, accéder au monde des adultes et être heureux pour toujours. Avoir beaucoup d'enfants ensuite.
Bon, on va revenir pendant toute cette émission sur la façon dont vous, Catherine Vanier, vous travaillez justement à partir de ces histoires avec les enfants que vous recevez. Mais comme chaque semaine en fin d'émission, c'est une personnalité qui nous confiera son regard sur la psychanalyse. Et aujourd'hui, c'est le comédien François Berléand qui a consulté de nombreux psys, dès le plus jeune âge d'ailleurs, mais qui à 40 ans a entamé une analyse. Voilà un petit avant-goût de ce qu'il en retient.
Ce geste, prendre son portefeuille, de payer en liquide en général, et puis partir, ça fait qu'il y a un échange qui se fait, parce que j'étais avec une lacanienne, donc qui ne parlait pas. Donc c'était le seul moyen d'échange, c'était important, c'était le seul moment où elle me disait quelque chose, merci, etc. Bizarrement, je me délestais d'un argent qui faisait que ça allait mieux. C'était entre elle et moi, et d'égal à égal. Et c'est un échange que je trouve absolument extraordinaire.
It's a long time, I don't know if you know. I am sitting, yes I am, looking for to know. If you do like me too, if you really feel the same. Do you like me to like you, comme moi je vous aime.
I love you, do you love me, do I love you, do I love you.
I don't know, do you know how much I care? Care of you, I do so, je ne sais pas si je suis clair. You know what, don't you see, don't you feel it in the air? It is me, les amis, and I'm ready to declare.
I love you, do you love me? Do I love you? Do I love, I love you? Do you love me? Do I love you?
I'm not sure, mon amour, je ne connais pas bien l'histoire. Je ne sais pas quand elle court, je ne sais pas si je peux la croire. I'm not sure, ça c'est sûr, que tu m'aimes et puis c'est tout. I'm not sure, mon amour, d'avoir toujours rendez-vous.
Pengue qui m'aime, mais nous nous étirions, mais nous amènes. I love you. Pengue qui m'aime, mais nous n'aimons mon biporo souhait. I love you. Venga aquí, mende menú, nangue mue muan bi poro sué. I love you.
Yeah.
Mathieu Bogart's I Love You sur France Inter. On est avec Catherine Vanier et on explore la fonction des contes de fées dans la construction psychique des enfants et leur rôle dans les thérapies. Extrait.
De pierre osée la mienne, de briques elle est faite, de chants et danses je n'ai pas loisir, travail et je ne vont.
De jouer il n'a pas le temps, pas le temps, pas le temps, il travaille constamment.
Jouer, riez, violonner, ne croyez pas que vous me fâchiez. Sauf je suis, mais vous trembleriez si le loup à lui frappait.
Qui craint le grand méchant loup, grand loup noir. Qui craint le grand méchant loup?
Il est là.
Par les poils de ma barbe, je vais m'enfler, souffler, la maison défoncer.
Alors tout le monde a dû reconnaître ce petit medley des trois petits cochons. Catherine Vanier, vous avez relu cette histoire à l'occasion d'un travail que vous faisiez avec Thomas, un petit garçon de 5 ans en grande section de maternelle. Alors il vient vous voir depuis déjà quelques temps et puis tout à coup il se met à ne plus vraiment réussir à dormir, à être obsédé par les trois petits cochons. Qu'est-ce qu'il vous raconte? Qu'est-ce qu'il obsède?
Ah oui, aucun autre conte que les trois petits cochons.
Il n'y avait plus que ça.
Oui, absolument. Vous voyez, on ne travaille pas avec les contes de fées, comment vous dire. Quand on reçoit des enfants, quand on est analyste pour enfants, le conte de fées n'est pas une méthode. D'ailleurs, il n'y a aucune méthode de cet ordre-là. Nous, notre méthode, c'est d'être à l'écoute de ce que l'enfant nous amène. Et c'est vrai que souvent, ils amènent des contes de fées. Et ce qui est intéressant à ce moment-là, parce que c'est le conte qui les prend à la gorge dans le moment où ils vous en parlent, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'ils en font.
Ce sur quoi ils s'arrêtent, quoi.
Ce sur quoi ils s'arrêtent. Et ce qu'ils en font, c'est-à-dire comment ils vont essayer de répondre à leurs questions. Vous savez, tous les enfants du monde sont des petits philosophes, des petits métaphysiciens qui se demandent c'est quoi le monde, comment est-ce qu'on grandit, qu'est-ce qui se passe entre les grandes personnes, les grands sont beaucoup plus forts que moi. Donc le conte, ça leur permet d'essayer de trouver un moyen pour pas se faire manger par l'adulte qui est quand même terrifiant. Et on voit comment ils l'ont intégré à leur propre fantasme et comment ils essaient de le faire évoluer pour trouver la solution qui va être la leur. Alors ce petit garçon, effectivement, commence toute une série de dessins. Il est absolument terrifié par cette histoire. Parce que, dit-il, mais comment c'est possible de faire sa maison en briques? C'est quelque chose.
Alors ça, c'est l'aîné des trois petits cochons, pour ceux qui nous écoutent et qui s'en souviennent pas. Voilà. C'est donc l'aîné qui fabrique sa maison en briques, elle est donc très solide. Et donc quand le loup arrive pour souffler sur les trois maisons, c'est celle-ci qui ne s'envole pas.
Voilà.
Parce que les deux autres sont des feignants et ils ont fabriqué ça en paille.
Voilà. De ces trois petits cochons, c'est l'aîné qui lui est raisonnable. Voilà. Il y a toujours une idée comme ça dans les contes de fées, c'est-à-dire se passer du pulsionnel, voyez, renoncer à ce dont on a envie tout de suite.
Ce qui est le cas des deux petits cochons, des deux autres.
Bah oui, les deux autres, ils préfèrent aller jouer voilà. Plutôt que de prendre le temps de construire leur maison. Et le frère aîné, sérieux, raisonnable, dit non, 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 un jour le loup peut venir, je vais construire la maison en briques. Et heureusement parce qu'il sauve les deux autres oui. À la fin de l'histoire. Mais donc lui, Thomas, son problème c'était aussi qu'il était l'aîné. Et qu'ils étaient trois, non pas trois petits cochons, mais trois petits garçons dans cette famille, lui et deux petits frères plus jeunes. Donc, face à cette histoire, il se disait, mon Dieu, quelle responsabilité. Comment vais-je faire pour construire cette maison en briques? Moi, j'ai tout à fait envie d'aller jouer.
Oui, moi qui ressemble finalement aux deux petits.
Voilà, voilà.
C'est-à-dire qu'il devrait avoir le rôle du grand.
Petit à petit, il a essayé tous les moyens, de façon très astucieuse, de faire en sorte que cette maison soit construite par d'autres, au fil de l'histoire, pour lui pouvoir continuer à jouer. Voilà, jusqu'au moment où petit à petit, en racontant, il a raconté, c'est bien sûr pas moi qui la raconte, l'histoire c'est lui, jusqu'au moment où il a commencé à accepter l'idée que peut-être ce serait pas mal de se poser un peu et de construire sa maison en briques. Et ce à quoi on a pu assister parallèlement, c'est un certain renoncement à obtenir tout ce qu'il voulait en permanence, quoi. Quelque chose du renoncement s'est mis à être possible pour lui à partir de l'histoire des trois petits cochons.
C'est un âge typique, 5 ans, de la satisfaction pulsionnelle immédiate qui doit être... Enfin, qui est au cœur de la problématique de l'enfance et...
Bien sûr, on voit bien les caprices, je veux ça tout de suite, 5 ans. Disons que c'est vers 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, ça démarre, hein, 5 ans. L'enfant commence à être suffisamment attentif au monde qui l'entoure et à comprendre les intérêts qu'il y a à pas foncer tout
de
suite. Voilà. Dans ses désirs du moment, pour en obtenir plus tard. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut pointer dans les contes de fées. Je trouve que les parents, souvent, de nos jours, se plaignent d'enfants qui ne font pas d'efforts, qui aiment la facilité. Toujours la satisfaction immédiate, le plaisir, le principe de plaisir contre le principe de réalité. Et ça, les contes de fées ont une grande importance là-dedans. Parce que les contes de fées vous disent tous, attention, attention au plaisir immédiat. Prenez un peu le temps, regardez le petit chaperon rouge. Ce serait jamais fait manger par le loup si elle n'avait pas été cueillir les fleurs, alors que sa maman lui avait dit, reste bien sur le chemin. Mais ça a été plus fort qu'elle, elle aime tellement les fleurs. Donc le conte de fées apprend aussi aux enfants l'utilité des choses. Et puis lui, dans cette histoire d'être l'aîné, je pense que ce petit cochon, lui a donné l'idée de la responsabilité de frère aîné qu'il avait, alors qu'il n'avait pas du tout accès à cette idée-là avant.
Alors Thomas était obsédé par les trois petits cochons, on vient de l'expliquer, et je voulais savoir plus largement, comment est-ce que vous expliquez que les enfants soient capables de regarder ou d'écouter 25 fois la même histoire à la suite, et d'être vraiment littéralement obsédé par une histoire au-delà de celle de Thomas? C'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça, ils la connaissent quasiment par cœur, ils pourraient presque nous la raconter.
Alors non seulement ils tiennent à cette histoire, mais gare à vous si vous changez un mot.
Un mot, c'est vrai.
Il faut vraiment que ce soit toujours la même chose, parce qu'effectivement, il y a quelque chose de très rassurant dans cette répétition d'histoires, et qu'ils l'attendent, et qu'ils savent à quoi elle leur sert, et qu'ils la veulent exactement comme avant, pour se garantir qu'eux-mêmes restent les mêmes qu'avant, tout en étant amenés à une proposition de changement qui va être toujours bénéfique pour eux. Donc il faut que cette histoire se répète, jusqu'à ce qu'ils aient le courage de se lancer dans ce changement. C'est un peu comme quelqu'un qui apprend à jouer un air sur le piano, et ben il va répéter pour pouvoir le jouer facilement. Il a vraiment besoin de l'entendre, l'enfant, et de le réentendre pour y avoir accès et se l'approprier.
Qu'est-ce que vous dites aux parents qui ont tendance parfois, moi j'entends ça régulièrement, on est nombreux à entendre ça, à éviter telle ou telle histoire parce qu'elle est trop ceci, elle est trop cela. Là, on entend souvent la question du stéréotype de genre qui sont véhiculés par les histoires justement que lisent les enfants. Et souvent on entend les parents qui disent ça, non, ça je vais pas lire, ou bien ça fait trop peur. Ou...
Alors ça fait jamais assez peur pour un enfant, il faut le savoir. L'importance du conte, c'est que c'est le monde de l'imaginaire. L'enfant sait très bien, ça s'adresse exactement à son monde, à lui. Il est dans cette période de pensée magique. Pour lui, il ne faut pas oublier que l'imaginaire est beaucoup plus réaliste que la réalité. Donc, il est là-dedans, lui. Les sorcières, c'est normal. Les animaux qui parlent, c'est normal. Enfin, tout ça, c'est tout à fait normal. Donc, vous lui racontez ça. Non seulement il trouve ça normal, mais ça ne lui fait pas peur parce que cette violence-là, plus il est violent, plus il reconnaît qu'elle peut être en lui, et en lui lisant justement, ce qui est peut-être différent, ce que je vous disais, de le mettre devant un DVD, en lui lisant, c'est comme si vous autorisiez à ce qu'il y ait une reconnaissance de cette violence-là. Et donc, c'est très rassurant pour lui qu'on puisse parler de ces choses très violentes qu'il a bien entendu en lui et qu'il va apprendre dans le conte à pouvoir dépasser.
Alors maintenant, à l'adresse des parents aussi, en tout cas des adultes qui lisent des histoires et qui jouent avec leurs enfants, je vous propose d'écouter la voix de Françoise Dolto. C'était en 1977 et c'était sur France Inter.
Quand un enfant aime un héros, il faut resituer ce héros dans ce qui est raconté dans le thème. Et d'accord, que cet enfant s'identifie, pas seulement en pensée, mais en activité à ce héros. Comme ils aiment se déguiser, pourquoi pas? Mais ben, ceux qui veulent être Robin des Bois, par exemple, il y en a qui sont déguisés Robin des Bois. Ben, qu'on leur apprenne à bien viser, c'est pas difficile. Si tu es Robin des Bois, faut bien viser, sans ça, à quoi ça sert, hein, et, etc. Tout ce qui est, et puis l'adresse, l'acrobatie de Robin des Bois, et puis de sauver les jeunes filles des méchants. Enfin, pas seulement une histoire en l'air comme ça et dans la tête. Tout chez l'enfant a pour but de le développer, c'est-à-dire de le sortir de son impuissance pour le rendre puissant.
Voilà, la voix de Françoise Dolto, Catherine Vanier.
Oui.
Pas seulement une histoire en l'air et sortir l'enfant de cette impuissance. De quelle impuissance est-ce qu'elle parle?
Ah bah vous vous souvenez pas? On se sent très impuissant quand on est enfant. Vous vous rendez compte, tout petit, face aux grandes personnes qui vous donnent des ordres, qui sont capables de faire des tas de choses que vous, vous n'êtes absolument pas capable de faire. Donc, Françoise Dolto, là, nous dit, donner à l'enfant le sentiment qu'il va pouvoir faire quelque chose avec tout ça, quoi. Que son impuissance d'enfant est passagère, qu'il va grandir et plus il apprend de choses, moins il sera impuissant et moins il sera dans ce monde de l'enfance. Pour un enfant, le monde est extrêmement menaçant. Et quand vous lisez les contes de fées, c'est toutes ces menaces terribles que raconte le conte de fées qui sont les menaces que l'enfant vit et que le conte de fées lui propose d'avoir le courage de dépasser, d'affronter, de ne pas avoir peur.
Harvey, Good Fortune sur France Inter.
Anna, Elsa, tu es différente, mais dans le bon sens. Je n'ai jamais su de quoi j'étais capable.
Je suis vraiment navrée de ce qui s'est passé. Si j'avais su,
Non, ne t'en fais pas. Tu n'as pas à t'excuser. Mais tu dois t'en aller. Je t'en prie. Anna, ma place est ici. Seule, où je peux être qui je suis, sans risquer de faire de mal aux autres.
Libérée, délivrée, je ne mentirai plus jamais. Libérée, délivrée, c'est décidé, je m'en vais. J'ai laissé mon enfance en été, perdue de prix de la liberté.
Voilà, une immense dédicace à tous les jeunes parents qui nous écoutent, même si je ne suis pas certaine de leur faire très plaisir. Bon, et si parmi vous, certains n'auraient ni reconnu l'extrait, ni la chanson, il s'agissait donc de La Reine des Neiges. C'est le dessin animé à la mode en ce moment, et depuis déjà quelques temps, dans toutes les cours de récréation en France. Une histoire tirée d'un conte d'Andersen et adaptée au cinéma par Walt Disney. Il vous plaît ce dessin animé, Catherine Vanier ?
Oui.
Oui ? Enfin, vous cachez oui. Votre joie. Bah,
non, mais je repensais en vous entendant au conte d'Andersen,
oui.
Qui est juste absolument extraordinaire. Si vous avez l'occasion de le relire ou de le lire.
Vous voulez parler du texte originel ?
Oui, parce que ça ne ressemble pas du tout à l'histoire hollywoodienne
que Walt Disney
qu'on a
fait,
évidemment, Walt Disney. Et c'est un conte philosophique, véritablement.
Ah oui ?
Sur la beauté, la vérité, la laideur, c'est absolument extraordinaire. Si vous avez l'occasion, c'est un très très beau conte.
Bon.
Je ne vais pas vous le raconter là, mais c'est un très beau conte.
Bon, parce que juste en deux mots pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'histoire donc de deux sœurs, Anna et Elsa. Elsa devient reine du royaume d'Arendelle. Elle possède le pouvoir de tout transformer en glace. Mais ses pouvoirs, elle ne les maîtrise pas. Et non seulement elle blesse quasi mortellement sa petite sœur Anna, mais elle plonge malgré elle le royaume dans une sorte d'hiver éternel. Alors pour protéger les autres d'elle-même, elle quitte la civilisation et elle s'enfuit seule pour s'installer dans un château de glace. Et donc c'est sur la base de cette histoire que vous avez travaillé, vous avez pu travailler avec une petite fille que vous receviez, une petite Chloé qui avait 7 ans. Une petite fille autiste, peut-être qu'on peut dire un mot sur les symptômes ou les caractéristiques de l'autisme avant d'expliquer ce que vous avez pu faire à partir de cette histoire avec elle.
Mais vous savez, aujourd'hui, l'autisme, on parle de troubles du spectre autistique, on peut être autiste de plein de façons différentes. Elle, c'était une petite fille qui allait à l'école, qui parlait, une autiste qui était dans la partie basse du spectre autistique. Elle travaillait bien à l'école, petite fille très intelligente. On parle aujourd'hui d'autisme Asperger. Mais dès qu'elle était en récréation, elle était enfermée dans un coin de la cour de récré et elle laissait personne approcher et elle ne jouait jamais avec les autres. Et puis, elle avait cet étrange contact, cette indifférence curieuse. Et quand j'ai commencé à travailler avec elle, elle avait beaucoup de mal à parler. On a travaillé à partir des dessins. Et un jour, elle arrive en séance, elle se plante au milieu du bureau et elle se met à chanter
«
Délivrée, libérée », comme nous venons de l'entendre. Bon, donc ça, je connais. Je lui dis « Mais c'est la chanson de la Reine des Neiges ». Et là, je vois son visage s'illuminer et elle me dit « Elsa, Elsa, je suis Elsa ». Donc, je l'invite à me parler un peu plus de cette Reine des Neiges. Et là, elle commence sur plein de séances à dessiner le château dans lequel est Elsa. Et elle m'amène ce matériel en m'expliquant le bonheur que représente ce château de glace où elle est coupée de tout le monde. Quand elle commence à me parler de ça, et puis c'est vrai que c'est beaucoup quelque chose au centre quand il s'agit de ces enfants autistes, c'est la question de l'autre qui fait peur, quoi. Il y a quelque chose aussi de très défensif dans l'autisme. Quand vous levez tous les ponts-levis et que vous voulez pas du tout être en contact avec les autres,
c'est
aussi que vous avez véritablement besoin de vous protéger, que vous vous sentez incroyablement
vulnérable
et fragile. Et puis ce qui a été vraiment décisif dans la prise en charge de cette petite fille, dans mon travail avec elle, c'est la façon dont elle a pu, au fil des dessins, m'expliquer que c'était pas tant la peur des autres qui était son problème, mais la peur d'elle-même. Ce qui la rassurait beaucoup dans ce château de glace, c'est que là, elle était enfermée, non pas pour se protéger des autres, mais pour ne pas faire de mal aux autres.
Comme Elsa dans La Reine des Neiges.
Comme Elsa dans La Reine des Neiges. Et donc, on a pu travailler complètement différent cette question de pourquoi cette petite fille se sentait si monstrueuse,
dangereuse pour les autres.
Si capable d'être dangereuse pour les autres. Et c'est vrai que c'est quelquefois des sentiments. Au bout d'un certain temps, quand les autistes commencent à se livrer un peu plus, c'est quand même une question. Pour eux, la peur de pouvoir être agressif avec les autres. Donc, si vous voulez, cette Reine des Neiges, alors évidemment version Chloé, qui n'est pas la version de Walt Disney, m'a permis d'accéder beaucoup plus à cette petite fille, de comprendre plus et de l'aider à s'ouvrir sans avoir peur d'elle-même.
Donc, ça a eu de vrais effets ensuite pour elle,
à l'école. Ah oui, ça a eu de vrais effets,
vous
voyez. Oui, à l'école. À l'école où elle a commencé à avoir des amis
Alors, il y a un autre personnage de dessin animé qui vit et qui reste dans son monde, c'est lui.
Oh, Peter Pan ! Je suis si heureuse que tu sois revenue ce soir. J'aurais pu ne jamais te rencontrer.
Pourquoi ?
Parce que je dois commencer à grandir demain.
À grandir ?
C'est ma dernière nuit dans la chambre d'enfant.
Non ! Non, je ne veux pas ! Suis-moi !
Mais où est-ce qu'on va ?
Au pays imaginaire.
Au pays imaginaire ?
Le pays où on ne grandit jamais.
Oh, Peter ! Ce serait vraiment merveilleux. Oh, mais attends ! Maman ne sera peut-être pas d'accord.
Maman ? C'est quoi une maman ?
Je vais t'expliquer. Une maman, c'est quelqu'un qui nous aime et qui s'occupe de nous et nous raconte des histoires.
Bien ! Tu vas devenir notre maman. Viens !
Non, attends une minute. Il faut que... Oh, le pays imaginaire. Oh, je suis tellement contente que j'ai très envie de t'embrasser.
Oh ! Arrête ! Clochette, arrête !
Alors Catherine Vanier, Peter Pan, c'est le petit garçon qui ne veut pas grandir, on vient de l'entendre. On en a même fait le nom d'une maladie.
Absolument, le syndrome de Peter Pan.
Alors c'est quoi ce syndrome?
Bah c'est ça.
C'est celui-là.
Des petits enfants qui...
Mais ça existe, tous les enfants, on passe par là, non?
Plus ou moins, quand
oui,
même.
Plus ou moins.
Souvent, les enfants ont très envie d'être grands. Ils vous le disent. Moi, je suis fort. Moi, je suis grand. Mais vous voyez, dans notre monde actuel, c'est intéressant de voir les enfants de 4 ans, comme ils sont intéressés, par exemple, par les super-héros. Hein, Iron Man.
Spider-Man.
Batman. Tous ces super-héros, c'est intéressant parce que ils ont le pouvoir ou ils l'ont pas. Et les enfants, aujourd'hui, c'est où je suis fort ou je suis pas. Ce qui est exclu là et qui est extrêmement important dans le conte de fées, c'est que dans le conte de fées, je deviens fort. Je passe par-dessus mes angoisses, je passe par-dessus mes peurs. Vous voyez là la panique de Peter Pan quand Wendy veut l'embrasser. Évidemment que ce qui est refusé aussi dans ce monde des adultes, c'est cette rencontre avec la sexualité, ce que l'enfant refoule depuis Freud, on le sait, l'enfant a aussi une sexualité. Et cette sexualité refoulée, elle est dans les contes. Vous voyez bien le temps qu'il faut à Blanche-Neige pour être réveillée par le prince charmant, à la Belle au bois dormant aussi. Il y a tout ce temps de latence avant que puisse s'éveiller une sexualité. Donc le conte de fées, il sert à ça. À comprendre comment on passe de la toute petite enfance à un temps où les parents deviennent plus menaçants et vous disent « il faut y aller », au combat contre soi-même, à la peur de la sexualité et à l'acceptation de cette autonomie et de la sexualité des grandes personnes, puisque vous savez qu'à la fin, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.
Alors justement, pour terminer, un conte dont vous m'avez un tout petit peu parlé, qui vous a beaucoup plu pour préparer cette émission, un conte des frères Grimm, qu'on ne soupçonnait pas et qui pourrait plaire aussi aux adultes.
Ce que je voulais essayer de vous faire passer, c'est un des contes des frères Grimm, dont parle d'ailleurs Bettelheim, qui s'appelle, je crois, « Celui qui ne tremblait jamais », qui est l'histoire d'un prince qui n'a jamais peur. Et ce qui est très très intéressant pour nous, les psychanalystes, c'est que le père s'en inquiète. Quand on dit que le père transmet pas la toute-puissance à l'enfant, mais il transmet la castration, et la possibilité de rencontrer la castration, l'épreuve, la castration c'est l'épreuve, dans les contes de fées c'est des rituels initiatiques qu'il n'y a plus trop de nos jours. Et là ce papa s'inquiète parce que son fils ne tremble pas et que un homme, un vrai, ça doit avoir peur. Alors là il y a toute une aventure où le père l'envoie voir des ogres, des monstres terribles, et cet enfant revient à chaque fois, ce jeune homme, je ne tremble pas, je ne tremble pas. Et le père est très inquiet, et puis finalement il finit par le marier. Et vous savez, le premier jour où ce jeune prince tremble, c'est la nuit de noces dans le lit de sa femme. Voilà, donc vous voyez finalement ce qui fait peur aux hommes, ce sont les femmes.
Voilà.
Your loaded guns, no.
you see me as you see me now. All my guns are, all my guns are down. The walls around me.
Jeanne Haddad, Miss It All sur France Inter. Alors on va maintenant rejoindre une autre scène, celle du cinéma et du théâtre. J'ai rencontré le comédien François Berléand qui s'inventait beaucoup d'histoires et de personnages lorsqu'il était enfant et qui a décidé à 40 ans de faire une analyse. François Berléand, si je vous dis psychanalyse, vous pensez immédiatement à quoi ?
À mon analyse à moi que j'ai faite il y a 24 ans. Je pense à ça, en même temps je pense à tout le bien que ça m'a fait. Cette analyse, je l'ai faite quand j'allais très bien dans ma tête. Je vivais à l'époque avec une femme qui était en analyse depuis 25 ans. Moi, ça a été très rapide, ça a été un an. Et comme j'avais fait un travail de l'auto-analyse et puis de l'analyse avec des psychologues, donc mais pas des psychanalystes, donc j'avais quand même fait un travail d'introspection assez fort. Donc ce qui m'a permis de faire une analyse très rapide, mais bon, deux fois par semaine, mais j'ai réussi à, en fin de compte à trouver très vite le pourquoi du comment. Et donc le fait de trouver ça, j'en ai fait un livre, c'est que mon père m'avait dit que j'étais le fils de l'invisible. Mais quand j'avais 11 ans, et j'ai eu la faiblesse de le croire, donc ça m'a joué beaucoup de tours dans ma vie. Et quand j'ai ressorti ça en analyse, du coup, j'ai fait un travail qui est extrêmement bénéfique pour mon métier d'acteur et pour ma vie, évidemment, puisque c'est vraiment important d'en faire une, je crois.
Ça a été quoi le déclic ? Vous dites que vous y êtes allé quand tout allait bien ou à peu près bien dans votre tête, mais finalement, il y a forcément eu un déclic. Pourquoi ?
Oui, le déclic, c'était les 25 ans d'analyse de ma compagne. Et comme j'avais d'autres amis qui étaient en analyse et de qui je me moquais un peu parce que je trouvais que c'était des analyses qui étaient très très longues, donc je me suis dit, bon, au lieu de me moquer, peut-être qu'il faudrait que je voie le mécanisme. Mais je me moquais parce que moi, mon rapport avec l'analyse, c'était plus avec des psychologues, donc pas des thérapeutes, enfin des thérapeutes et non pas des analystes. Il n'y a pas de thérapie dans l'analyse. Il y a une thérapie personnelle, quoi. C'est nous qui faisons le travail. C'est ça qui est intéressant, de faire le travail soi-même.
Mais alors, quelle différence vous faites justement? Faire le travail soi-même, ça veut dire quoi par rapport au psy que vous aviez vu quand vous étiez plus jeune?
Parce que c'était pas, je faisais pas une analyse, je payais pas. C'était mes parents qui payaient. Ou c'était remboursé par la Sécu, ou je ne sais pas. Enfin bon, peu importe. Moi, j'avais pas ce rapport à l'argent qui est essentiel malgré tout dans l'analyse.
Donc, pourquoi c'est essentiel ?
Ce geste, prendre son portefeuille, de payer en liquide en général et puis de partir, ça fait qu'il y a un échange qui se fait parce que j'étais avec une lacanienne donc qui ne parlait pas. Et donc c'était le seul moyen d'échange, c'était important, c'était le seul moment où elle me disait quelque chose, merci, etc. Donc au début, je me disais, mais je ne vais quand même pas payer pour rien, alors que cette femme ne me dit rien, etc. etc. Bon, je savais que le travail allait se faire, quoi qu'il arrive. Et c'est ça qui était drôle, parce qu'elle disait quand même des petites choses, mais c'était pas... Bizarrement, je me délestais d'un argent qui faisait que ça allait mieux. C'était, entre elle et moi, une sensation assez particulière, d'égal à égal. Et c'est un échange que je trouve absolument extraordinaire.
Vous dites que ça vous a permis de mettre une explication, ou en tout cas de mettre à jour la phrase de votre père, que oui. Vous étiez le fils d'un homme invisible. C'est une phrase qui...
De l'homme invisible.
Le fils de l'homme invisible.
Oui, c'est que justement, c'est cette phrase à coup qui est revenue en moi. Et après, j'ai travaillé sur ce que ça avait évidemment dégagé en moi, mais après sur le sens de ce que mon père en avait dit. Est-ce que c'était moi qui étais le fils de l'homme invisible, ou est-ce que c'était mon père qui était invisible? Donc c'est là-dessus qu'on a travaillé, et on s'est rendu compte que ça parlait de son problème à lui à exister dans une famille dans laquelle il n'était pas accepté à 100%. Et donc il était quelquefois invisible. Et ce qui est drôle, c'est que la boucle s'est bouclée il y a peu de temps, parce que j'ai fait une émission pour la télévision qui s'appelle Retour aux sources. Et donc c'est un travail qui a été fait par des généalogistes, c'était un travail d'investigation avec des journalistes. Et on est allé du côté paternel dans la famille de mon père. Mon père était un juif russe, et en fin de compte, il n'y a eu aucune transmission de sa part par rapport à nous. Il n'a jamais parlé de son enfance, jamais parlé de son père, ni de son grand-père. Bon, j'ai connu ma babouchka, ma grand-mère, mais pas plus que ça. Il y avait un silence total, comme s'il ne fallait pas transmettre son histoire. Et le jour où j'ai décidé d'être comédien, mon père m'a dit, tu reprends le flambeau. Je dis, je reprends le flambeau de quoi? Il dit, ta babouchka était comédienne et ton grand-père était metteur en scène. Je dis, quoi? Mais explique-moi. Je ne peux pas te dire, j'en sais rien. C'est éblouissant parce que je me rends compte que, alors que je suis cartésien, alors que j'ai fait une analyse, qu'il y a quelque chose qui est encore plus fort que ça, c'est la transmission par les gènes. Vous vous rendez compte, je décide d'être acteur alors que je ne savais pas que mon grand-père et que ma grand-mère étaient dans le métier. C'est quand même inouï, quoi. Toute la poésie, l'humour de folie de mon grand-père. Mon grand-père était un barge total. Je l'apprends au fur et à mesure du document. Et je me rends compte que j'ai hérité de ça, quoi. Mais sans savoir, parce qu'il y a des moments où je me dis, mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis barge? Mon grand-père était comme ça.
Vous êtes barge?
Un peu, oui. Un peu. De toute façon, pour faire le métier que je fais, il faut être un peu en dehors des limites, quoi.
Mais justement, quand il vous dit « tu es le fils de l'homme invisible », finalement, c'est le premier rôle que vous avez endossé, puisque ce que vous nous racontez, c'est que vous avez endossé ce rôle-là de gamin invisible ensuite, après cette phrase.
Mais oui, du coup, je me suis inventé des histoires, mais les plus abracadabrantesques du monde, quoi. C'était déjà... Pour croire au fait d'être le fils d'un homme invisible, c'est pas possible de le croire, mais je le croyais. Et je me demandais, alors, est-ce que mes parents sont invisibles tous? Est-ce que mon frère est invisible? Donc je tirais la langue à des gens, ça m'a joué des tours pendant, puisqu'à un moment donné à l'école, je me disais, mais pourquoi ils me disent bonjour François? Donc, et c'est les vêtements. Et un jour, je me suis déshabillé en cours pour vérifier. Et je suis allé nu jusqu'à la porte. Et là, il y a la prof qui me voit, qui me dit, qu'est-ce que vous faites tout nu? Et là, je t'en pétais, donc je suis de nouveau visible, donc je me suis rhabillé, je vais voir la directrice, pourquoi t'as fait ça? Et puis je vais voir un pédopsychiatre, c'était le premier, et puis ça a été après une succession.
Comment vous définiriez cette expérience de l'analyse, du coup, cette année de psychanalyse que vous avez fait qu'un an?
C'est une relation avec moi qui était différente, plus apaisée. Tout à coup, je me rendais compte pourquoi j'agissais d'une certaine manière. Il manquait certains points, j'ai compris là, donc 25 ans après, avec cette émission, le transgène, je ne sais pas quoi, la transgénétique, je ne sais pas quoi, mais je sais que l'essentiel, en tout cas, de ce que j'avais du travail, m'avait totalement apaisé sur tout le questionnement que je pouvais avoir, tout l'inconscient qui avait été enfoui très largement.
Quand j'ai... Mais transmis aussi.
Oui, voilà. Après, j'avais pas envie de m'étaler, parce que je pense que le problème de l'analyse, c'est que... Après, je pense qu'une analyse trop longue fait que on est trop dépendant de son psy. Le rapport peut dégénérer, devenir quelque chose de très malsain.
Vous êtes plutôt à l'aise, bavard, vous n'avez pas trop de mal à parler, vous n'êtes pas très timide. Et vous m'avez dit que vous étiez allé voir une analyste lacanienne qui parlait donc très peu. Ça n'a pas été un problème pour vous, ça?
Au début, si. C'était une femme très 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 belle. Donc j'étais fait le transfert obligatoire, mais bon, c'est normal, c'est une jolie femme, on ne veut pas non plus. Et en fin de compte, c'était assez étrange, parce qu'au début, je dis, mais vous allez me parler quand même un peu. Et puis moi, j'ai besoin de faire rire, j'adore faire rire. Et donc, dès que j'avais un sourire d'elle, je disais, voyez, vous souriez, ça me fait plaisir, moi je pourrais vous raconter un truc. Et en fin de compte, je mettais un temps fou avant de dire quelque chose d'important. Parce que elle me mettait tellement mal à l'aise que je racontais des histoires drôles, que je voulais savoir s'il pouvait rire, s'il m'écoutait ou pas. Et ça va durer un bon mois avant de me dire, bon, bah, peut-être que maintenant, on va peut-être parler un petit peu. Et en général, dites-moi, il y a 2 semaines, vous m'aviez dit ça, c'est intéressant, allez-y, on parlons de ça. Et c'est comme ça que ça, elle m'a accouché complètement dans un... travail qui était extraordinaire. Moi, j'adorais ça, j'adorais. Mais après, bon, j'étais trop amoureux d'elle, je ne pouvais plus... Ouais.
C'est comme ça que ça s'est terminé, ouais, à cause de ça?
Je lui dis, si je l'invite au restaurant, si on allait... Elle me dit, oui, j'ai bien compris, mais ça, non. Oh. Mais je me suis dit, après, on finirait l'analyse, ça serait fini, mais on a... Elle dit, voilà, c'est fini l'analyse, elle est finie. Non, je dis, c'est fini, c'est plus intéressant. Alors, je dis, bon, alors d'accord, c'est fini, mais on peut quand même être dîner ensemble, c'était... Et jamais oui.
Donc c'est vraiment comme ça que vous avez terminé votre analyse, ouais. Pour cette raison.
Oui, c'est particulier. Hein. Ouais. Moi j'avais fait le tour. Hein. Pour moi c'était une pirouette, ouais. Pirouette de plus.
Ouais. A posteriori, cette expérience-là, vous conseilleriez aux gens d'aller voir un analyste sans en avoir peur? Vous disiez tout à l'heure que ça peut faire peur ou qu'on s'en moquait souvent, vous comprenez
oui,
ça?
Moi c'était quand je l'ai faite, pensant n'avoir aucun problème, parce qu'on en a toujours évidemment... Conscient est tout le temps là, mais ça devrait être obligatoire. Tout le monde devrait faire cette démarche-là, parce que c'est une démarche primordiale.
Mais pas trop longtemps.
Mais quoi que, bon, si après tout. Mais il y a des curés aussi. pour se confesser.
Voilà François Berléand qui sera sur les planches du Théâtre Montparnasse à partir de la mi-septembre dans une pièce intitulée « Moi, moi et François B ». Alors Catherine Vanier, vous venez d'écouter François Berléand. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui vous a interpellé dans ce qu'il a dit ?
On voit bien dans ce qu'il raconte là l'importance des histoires.
Ouais.
Et comment on se fabrique ce qu'on appelle nous aussi un roman familial pour essayer un peu de comprendre ce qui nous arrive.
Parce que lui, il prend pour argent comptant la phrase de son père. Tu es le fils de l'homme invisible. Ce qu'il raconte, c'est qu'il le prend vraiment au pied de la lettre.
Mais tous les enfants.
C'est ça.
Tous les enfants prennent au pied de la lettre.
La
et à partir de là, tentent de construire quelque chose. C'est bien ça l'intérêt des contes de fées. C'est que ça les aide à se construire des choses auxquelles ils n'avaient pas forcément pensé. Ça leur dit quelque chose d'eux-mêmes. Ça leur donne des solutions. Une analyse ou un conte de fées, l'intérêt, c'est d'essayer de découvrir qui on est soi-même et qui est l'autre. Est-ce que vraiment le père est un homme invisible ? Est-ce que vraiment la bête de La Belle et la Bête est un monstre épouvantable qu'on ne peut pas aimer ? Dans La Belle et la Bête, une fois qu'elle accepte l'idée de quitter son papa, elle retourne chez la bête et là elle peut l'aimer. Et évidemment, il se transforme en prince charmant, comme quelques crapauds. Il faut en essayer plusieurs.
Et sur l'idée du roman familial et ce qu'il raconte de ce qui s'est transmis entre les générations, c'est-à-dire qu'il découvre, je sais pas à quel âge, à 25 ans, quand il devient comédien, que ses grands-parents étaient dans cet univers-là.
C'est vrai que des choses passent. Dans une famille, il y a toute une constellation familiale qui fait que sont repris, à notre insu, des éléments qui étaient des éléments de la famille et qu'on a toujours su sans les savoir, que les parents ont toujours su et nous ont transmis sans les savoir. Maud Manoni disait quelque chose passe d'inconscient à inconscient dans une famille et un symptôme, souvent, va être une parole codée dont la clé peut se trouver plusieurs générations plus haut.
Et avec les enfants que vous rencontrez, c'est des choses aussi que vous découvrez au fil de thérapie avec eux ?
Ben oui, parce que très souvent, l'enfant porte un symptôme, en fait, qui n'est pas le sien. Vous voyez, par exemple, là, il se promenait tout nu dans l'école.
Oui.
Il voulait savoir s'il était invisible ou pas. Et l'invisibilité, apparemment, n'a pas grand-chose à voir avec son symptôme à lui. C'est une question pour son père. Donc c'est ça qui met à l'épreuve quelque chose qui ne lui appartient pas en propre. Et l'analyse permet de savoir ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pas. Et le conte de fées est une aide.
Merci beaucoup Catherine Vanier d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle les références de votre dernier livre, « Qu'est-ce qu'on a fait à Freud pour avoir des enfants pareils ?» et c'est publié chez Flammarion. Je remercie tous les inconscients qui m'ont aidé à préparer l'émission. À la technique, aujourd'hui, c'était Maxime Ingrand. La programmation musicale était concoctée par Thierry Dupin. Élodie Piel m'a aidé à préparer l'émission et Clément Baudet l'a réalisée. Vous pouvez évidemment réécouter, podcaster l'émission, celle-ci, mais toutes celles de la saison, sur le site de France Inter, franceinter.fr, à la page « N'est pas fou qui veut ». Voilà, on a pris beaucoup de plaisir à vous proposer ce programme cet été. J'espère que vous en avez pris autant à nous écouter. Pour l'heure, c'est terminé, la psychanalyse sur France Inter. Alors on vous souhaite une belle rentrée à tous et bien sûr, un bon dimanche.